Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir ainsi.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens. Très bien.
Racontez.
Oh oui, je devais avoir 5 ans.
Et vous, quelle journée particulière choisiriez-vous ? Une journée particulière, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Et cet été, c'est tous les dimanches à partir de 16h sur France Inter. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Claire Oppert. Merci de passer ce dimanche après-midi en notre compagnie.
Sur France Inter.
Claire Oppert, vous êtes violoncelliste, diplômée du conservatoire Tchaïkovski de Moscou. Vous êtes aussi titulaire d'une licence de philosophie et d'un diplôme universitaire d'art-thérapie. Vous êtes une musicienne qui prend soin des autres. Est-ce que ça vous va comme définition de vous-même ?
Ça me va parfaitement.
Et vous allez, jusqu'à 15h, Claire, vous allez nous faire une sorte de récit lumineux de ce que la musique peut apporter à des personnes malades, en fin de vie, démentes. Mais ça sera de la lumière qu'on entendra.
Oui, quand les sons se transforment en lumière.
Claire Oppert, vous avez choisi comme journée particulière un jour d'avril 2012. Ce jour-là, vous vous rendiez, comme chaque lundi, dans un EHPAD au sud de Paris. Claire Oppert, je vous vois fermer les yeux, chanter, bouger sur votre chaise en écoutant cette andante du trio Opus 100 de Schubert. Vous aimez particulièrement cette musique ?
J'aime cette musique et elle est effectivement la musique de cette journée particulière qui était la mienne en 2012 quand j'étais dans cet EHPAD parisien. J'étais avec mon violoncelle et dans un coin de cette pièce qui s'appelait l'espace dans laquelle les résidents atteints de démence, Alzheimer et autres étaient rassemblés, il y avait une femme qui hurlait, qui pleurait, qui mordait et insultait les infirmières qui essayaient de lui faire le pansement de son bras droit. Et je me suis spontanément assise près d'elle, j'ai tiré la chaise et j'ai joué au violoncelle ce thème que vous venez d'entendre. Et ce qui s'est produit était quelque chose d'extraordinaire. Elle a abandonné son bras au bout de quelques secondes. Son visage s'est vraiment illuminé, il y avait une ébauche de sourire. Le pansement était réalisé en quelques minutes, après quoi j'étais obligée de revenir 2 jusqu'à 3 fois dans la semaine, car c'était la seule façon de faire son pansement.
Sinon, cette femme, qui s'appelle Madame Kessler, cette femme hurlait, criait, essayait même de mordre les infirmières, tellement c'était douloureux.
C'était douloureux, elle était très agressive. Et à la suite de cette extraordinaire diminution radicale de sa douleur à l'écoute de Schubert, l'infirmière qui était là a éclaté de rire et m'a dit cette phrase qui est restée et qui est devenue quelque chose d'important dans ma vie et dans les 10 prochaines années qui ont suivi. Elle l'a dit, il faudra absolument revenir pour le pansement Schubert.
Alors le pansement Schubert, maintenant c'est devenu un protocole médical, Claire Oppert, un protocole qui est connu dans le monde entier.
Le pansement Schubert, c'est la diminution de la douleur grâce à l'impact bénéfique de la musique. C'est quelque chose qui remonte au début de l'humanité, ce n'est pas une invention ni de moi, ni de personne d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est ancien, qui est connu. Il n'y a que la harpe du berger David qui calme les crises nerveuses du roi Saül les anciens Hébreux.
Mais dites-moi, ce pansement Schubert, maintenant, c'est un protocole qu'on utilise dans le monde entier ou pas ?
Le pansement Schubert, c'est à la base une étude clinique qui s'est déroulée à l'hôpital Sainte-Périne à Paris, dans le 16e arrondissement, avec le docteur Jean-Marie Gomas, qui dirigeait l'unité de douleurs fonctionnelles et soins palliatifs de l'hôpital Sainte-Périne. Et nous avons, à partir de cette expérience spontanée qui a eu lieu donc en avril 2012, un jour de printemps, nous avons fait un protocole médical qui s'est appliqué sur 112 pansements douloureux. 112 fois, j'ai joué le thème de l'andante de ce Schubert pour des patients douloureux au moment d'un soin potentiellement douloureux, donc la douleur induite par les soins. Et nous avons comparé avec des paramètres cliniques précis deux séances, une avec le violoncelle, donc la musique vivante au cœur de la chambre pendant le soin, et une autre à 24 heures d'intervalle sans musique.
Et alors ?
Et nous avons pu montrer que la douleur diminuait de 10 à 50%, ainsi que l'anxiété. Mais plus encore, nous avons montré que les soignants eux-mêmes avaient un impact bénéfique massif d'avoir dans la pièce où ils pratiquaient leurs soins un violoncelle et une violoncelliste.
Alors en somme, en avril 2012, Claire Oppert, c'est la première fois que vous étiez confrontée à l'évidence du soulagement de la douleur grâce à la musique. Ce jour-là, c'était du Schubert, mais il y aura aussi du Bach, du Mozart, du Shostakovich, Edith Piaf, Clo-Clo, Sardou, Joe Dassin, quoi d'autre encore, Claire ?
Allez, du rap, du métal.
Et Johnny.
Et Johnny, bien sûr.
Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour raye le jour. Et le fasse oublier la vie. Retiens la nuit. Avec toi, elle paraît si belle. Retiens la nuit. Mon amour, qu'elle devienne éternelle. Pour le bonheur de nos deux cœurs. Arrête le temps et les heures. Je t'en supplie. À l'infini, retiens la nuit. Ne me demande pas d'où me vient ma tristesse. Ne me demande rien, tu ne comprendrais pas. En découvrant l'amour, je prône la détresse. En croyant tout bonheur, la peur entre en mes joies. Retiens la nuit. Jusqu'à la fin du monde, retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour raye le jour et ne fasse oublier la vie. Retiens. Avec toi, elle paraît si belle. Oh, retiens la nuit. Mon amour, qu'elle devienne éternelle. Pour le bonheur de nos deux cœurs. Arrête le temps et les heures. Je t'en supplie à l'infini. Retiens la nuit. Je t'en supplie à l'infini. Retiens la nuit.
Claire Oppert, vous avez joué Retiens la nuit pour certains patients.
Alors j'avoue que je n'ai jamais joué Retiens la nuit, mais j'ai joué beaucoup d'autres Johnny, particulièrement au moment de sa mort, où les patients qui étaient en soins palliatifs me demandaient très souvent des chansons de Johnny. Je suis devenue une spécialiste.
Il y a Johnny. Et puis ça vous a amené, Claire Oppert, ce travail d'art thérapeute, ça vous amène sur des chemins qui vous étaient inconnus jusqu'alors. Vous n'aviez encore jamais joué du Johnny ou du Clo-Clo.
Absolument. Et en fait, c'est une grande ouverture encore chaque semaine. Car toutes les musiques peuvent être belles et bonnes. Et peu importe si c'est Joe Dassin, Johnny, l'Adagio d'Albinoni ou le thème de l'Andant de Schubert. En fait, la musique vivante, elle peut faire ouvrir les yeux, détendre les mains, couler les larmes et donner un peu d'espoir.
Alors sur France Inter, jusqu'à 15h, c'est la journée particulière de la violoncelliste Claire Oppert, devenue art-thérapeute. Et à l'origine du pansement de Schubert, vous êtes à l'origine de ce pansement de Schubert, une méthode donc qui vise par la musique à diminuer la douleur pendant un acte médical. Claire Oppert, en cherchant à comprendre ce qui vous a poussé vers le soin, vous vous êtes souvenu de votre premier concert alors que vous étiez une jeune fille violoncelliste.
Tout à fait, j'avais 14 ans, je me souviens très bien, c'était dans un très beau lieu à l'hôtel de Noailles à Saint-Germain-en-Laye. Et à la fin du concert, je me retenais de pleurer car j'avais fait une fausse note dans le dernier mouvement de la sonate de Sammartini. Et une femme s'est présentée soudainement à moi, elle avait un turban, elle avait le visage très pâle. Elle s'est approchée de moi et elle m'a dit cette phrase qui a été pour moi à l'intérieur de mon cœur comme un roulement de tambour qui ne s'est jamais vraiment tu. Elle m'a dit « Si vous aviez été médecin, vous m'auriez guéri ».
Alors il y a donc ce premier concert, il y a aussi la figure de votre père. Père magnifique, homme singulier, médecin, mais aussi pianiste, artiste. Et c'est un homme qui aimait particulièrement les nocturnes de Chopin. En train d'écouter le nocturne numéro 20 en mi bémol majeur de Chopin, interprété par Benno Moisevitch. C'était le nocturne préféré de votre père, Claire Oppert. Il le jouait souvent ?
Il le jouait très souvent et il le jouait parfois même chez ses patients. Il arrivait chez eux très tard, il avait faim, donc il demandait à ses patients de lui servir une soupe. Ensuite, il ouvrait le couvercle du piano. Il s'asseyait et jouait ce nocturne. Après quoi, il était déjà minuit passé. Les patients lui disaient « Mais docteur, vous ne m'avez pas encore ausculté ?» Et lui de répondre tout naturellement « Mais en fait, ça va beaucoup mieux. On se verra la semaine prochaine. »
Formidable. Il paraît qu'il était adoré de ses patients, votre père.
Mon père était adoré de ses patients. C'était un médecin inimitable, un médecin artiste, une énigme. Un médecin qui s'asseyait au piano et il disait « Car la musique est un appel à la vie. » Médecin qui était toujours en retard et pourtant jamais absent. C'était mon père, mon inspirateur.
Votre inspirateur, votre mère aussi a été votre inspiratrice, artiste.
Ma mère était
aussi.
Artiste, ma mère était dans la beauté, elle la recherchait toujours. Un ordre qui devait rassembler les parties pour en faire un tout, pour que toute chose soit belle. Ma mère était aussi une grande inspiratrice.
Et c'était une femme joyeuse, votre mère.
C'était une femme très joyeuse avec des fous rires répétés qui durent encore même jusqu'à ce jour. Même si elle n'est plus là, je continue en silence à rire avec elle de toutes choses.
Et vous vous souvenez, Claire Oppert, de cette scène magnifique que vous décrivez dans votre livre où vous êtes enfant dans votre lit et vous êtes tellement heureuse que vous criez à travers les murs à votre mère « Maman, je suis heureuse ».
Oui, j'ai toujours ressenti ce que j'ai appelé dans mon livre la circulation de joie. Et c'est vrai que je lui disais à travers le mur de ma chambre « Maman, je suis heureuse ». Et je lui répétais ça le soir, mais aussi le matin et à toute heure du jour.
Claire Oppert, vous suiviez un peu la trace de vos parents quand vous partez à Moscou pour étudier le violoncelle au conservatoire de Tchaïkovski. Vous étiez destinée à devenir vous aussi une artiste d'une certaine façon.
Oui, alors j'ai toujours hésité entre la musique et la médecine.
Vous aussi, comme votre père.
Absolument, et qui était la profession de mes parents. Et jusqu'au moment où je suis partie à Moscou, j'avais toujours l'idée, quelque part, de commencer la médecine et réunir le monde de l'art et le monde du soin. C'était finalement mon grand idéal qui dormait au fond de moi et qui, grâce au chemin que j'ai pu tracer après, a pu se réaliser. Je suis partie à Moscou parce que j'avais le rêve russe. Je voulais apprendre le violoncelle, je voulais suivre les traces du grand Rostropovitch qui était mon inspirateur et pour lequel j'avais une admiration sans borne. Et j'ai travaillé donc toutes ces années au conservatoire Tchaïkovski de Moscou avec une de ses élèves chaque semaine et plusieurs fois par semaine même me racontait qu'avait dit Rostropovitch sur cette sonate, qu'avait dit Rostropovitch sur cette mesure et sur quelle partie de l'index il fallait appuyer pour produire exactement le son que Rostropovitch voulait.
Et pourtant, ce sera une autre rencontre qui sera déterminante dans votre vie, Claire Oppert. Ce sera la rencontre avec Howard Buten. Est-ce que vous pouvez le présenter en quelques mots ?
Howard Buten, c'est aussi mon inspirateur premier génial. Howard Buten, c'est le clown Buffo sur la scène. Howard Buten, c'est aussi un psychologue clinicien de l'autisme, internationalement reconnu, qui s'est occupé toute sa vie des grands autistes. Et Howard Buten, c'est aussi l'écrivain à succès de « Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué ».
Je vous propose qu'on l'écoute.
Pour moi, c'est exaltant, souvent. Il y a des gens qui sont tellement merveilleux, parfois affreux et merveilleux en même temps, mais pour moi, c'est une... Je précise que je vis pas avec 24 heures sur 24. Il faut savoir comment c'est dans la famille, c'est pas la tarte, souvent. Mais au moins, dans leur compagnie, de les regarder, leurs gestes, leurs yeux, leurs regards, leurs chansons, leur musique, leur langage, entre guillemets, qui n'en est pas un, ou qui parfois en est justement un. C'est tellement original, et parfois tellement beau, que bon, il n'y a rien de tel, quoi. C'est un monde, c'est un vrai univers, une ambiance, si vous voulez. Et parfois, c'est très fatigant, et parfois, c'est même très douloureux. Bon, moi, aujourd'hui, j'ai plein de griffures partout, parce que je suis venu à faire carrément quelques séances de catch avec un jeune homme et une jeune femme, respectivement, à l'institution en crise, de violence, d'agression. Mais c'est des espèces de petites blessures de guerre, quoi. Mais bon, il y a des jours comme ça aussi. Il faut que je précise à chaque fois parce que j'oublie. Il est vrai qu'il y a des gens qui m'entendent parler à la radio et ils supposent qu'on va butin, ils roulent par terre, ils trouvent ça beau, tout est beau, ils font le singe avec eux et voilà tout. Mais c'est pas du tout tout. D'abord, si je suis docteur en psychologie et fier de l'être, j'ai beaucoup travaillé. Alors, après 16 heures, quand les membres s'en vont, je réfléchis sur ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu avec eux dans la journée. Et j'essaie de trouver un sens à tout ça pour mieux savoir quoi faire par la suite.
Claire Oppert, c'était donc Howard Buten qui parlait de son travail avec les autistes. Vous le rencontrez, vous êtes encore toute jeune, vous avez 24 ans, c'est ça ?
Oui, je l'ai rencontré en rentrant de Moscou. Je l'ai rencontré parce que j'avais été à une conférence qui était intitulée « Art et médecine ». Dans laquelle il intervenait et j'étais saisi par son intervention qui justement ouvrait les portes à l'infini. À la question « qu'est-ce que l'autisme ?», il a pris 2 minutes d'un silence qui, pour certains, était perçu comme gênant pour répondre que finalement, l'autisme, on n'en sait rien. Et tout Howard était là, Howard Buten, le génie que je remercie encore aujourd'hui et chaque jour de m'avoir ouvert ses portes. Je l'ai rencontré et j'ai eu le culot de lui demander si je pouvais travailler avec lui. Howard m'a regardé pendant très longtemps et m'a répondu « je vous écrirai ». C'est ce qu'il a fait, il m'a invité dans son centre pour grands autistes à Saint-Denis, le centre Adam Shelton, qu'il avait créé cette même année. Il m'a accueilli et alors là ont commencé les grandes rencontres de ma vie où j'ai pu allier le monde de l'art et le monde du soin avec cette confiance et cet accompagnement d'Howard Buten qui m'a ouvert des portes et des chemins inusités, extraordinaires.
Claire Oppert, est-ce que vous pouvez me raconter une de ces rencontres, au moins, avec ces enfants autistes ou ces jeunes personnes autistes? J'ai le souvenir d'un Paul, non?
Alors, Paul était un enfant autiste, il avait 15 ans, il était de toute beauté. Il était extrêmement agité et quand je suis entrée la première fois dans la pièce où je devais jouer pour lui, il se mutilait, il s'auto-mutilait, il crachait, il pleurait, il riait. Il était extrêmement agité. J'étais là avec mon violoncelle serré sur ma poitrine et je le regardais et puis instinctivement j'ai commencé à faire comme lui.
C'est-à-dire
j'ai commencé à gémir, j'ai commencé à me balancer, j'ai commencé à rire et lui s'est rapproché de moi progressivement et puis il pleurait. Alors j'ai commencé à jouer et au moment même, les premières mesures de la première suite de Jean-Sébastien Bach, ses larmes ont cessé. Il s'est rapproché de moi et il a touché avec ses mains mouillées le bois de mon violoncelle. C'était notre première rencontre. Howard Buten, qui nous observait de l'autre côté de la vitre qui séparait les pièces, était profondément ému. À partir de ce moment-là, il m'a demandé surtout de ne jamais rien lire sur l'autisme. J'ai même dû jurer solennellement que je n'apprendrais rien. Car il disait que l'intuition qui était la mienne, en fait, risquait d'être détournée par la théorie.
Et puis un jour, Claire Oppert, vous êtes retournée voir Paul. Et ce jour-là, vous lui avez joué la 5e suite pour violoncelle seule de Jean-Sébastien Bach.
De canon. Paul a brisé mon violoncelle. C'était comme une explosion, c'était un choc inimaginable que même dans mes pires cauchemars je n'aurais osé imaginer. Pendant que je jouais cette 5e suite de Bach, le prélude, à la tonalité sombre et tragique, Paul a donné un coup de poing dans la table de mon instrument et l'a brisé net. Le violoncelle était blessé à mort, j'étais tellement stupéfaite, je me suis arrêtée de jouer et je lui disais « Mais Paul, qu'as-tu fait ?» Et c'est alors que, dans ce désarroi total qui était le mien, j'ai décidé de continuer à jouer. Je n'ai été chercher personne. Le violoncelle avait une béance, avait une fracture, mais je pouvais quand même continuer à jouer. J'ai changé mon répertoire. Et Howard, qui était de l'autre côté de la vitre, était tellement... En fait, Howard pleurait. Car ce qu'il a observé, ce que j'ai compris aussi, c'est que Paul, à partir de ce moment-là, a commencé à me regarder droit dans les yeux.
Or, les autistes ne regardent jamais dans les yeux. Ils ne vous avaient encore jamais regardé dans les yeux.
En fait, ils me traversaient sans me voir, ou ils détournaient les yeux. Ils préféraient regarder les objets. Ils préféraient prendre mes mains et les mettre sur mon violoncelle. Il préférait surtout ne jamais, jamais croiser mon regard. À partir de ce moment-là, son regard s'est planté dans le mien. On avait, nos deux regards étaient croisés, étaient soudés, plantés. Et il a toujours, toujours fait ça à partir de ce moment-là, mais en promenant sa main dans la béance, dans la fracture, comme s'il mesurait la limite qui avait été franchie, la brisure à travers ce trou de mon instrument.
Claire Repère, qu'est-ce que vous avez vu, vous, dans son regard? Parce qu'il fallait le tenir, ce regard.
Son regard, je l'ai tenu, mais comme souvent on disait Howard, il faut faire de son regard une maison. Une maison si accueillante, avec des meubles que les autistes aiment et peints à leur goût. C'est-à-dire qu'il nous... Il nous disait, il me disait qu'il fallait se rendre suffisamment intéressant à leurs yeux, aux yeux des autistes. Il fallait être à leur hauteur en quelque sorte, il fallait mériter leur attention. Et notre regard qui pouvait les accueillir devait être sans contenu, sans jugement. De telle sorte qu'à partir de ce regard ouvert, eh bien la peur disparaîtrait. Et des chemins de communication se créeraient. Lui-même, Howard, disait qu'il n'avait jamais rencontré de toute sa vie un seul autiste qui n'ait été de bonne compagnie.
Alors, il y a une autre histoire absolument formidable, c'est David.
Oui, ça, c'est une des plus extraordinaires rencontres musicales et humaines, d'ailleurs, qu'il m'était donné de vivre. David pèse 110 kilos, il est toujours par terre, il est recroquevillé sur lui-même. Et en fait, le violoncelle, avec ses vibrations profondes, va aller le chercher dans un endroit que je ne savais pas nommer, que je ne sais peut-être pas encore nommer, mais qui va faire que progressivement il va se verticaliser. Mais bien plus encore, il va se hisser sur le tabouret du piano et commencer à jouer. David ne savait pas jouer du piano et il jouait toujours le même intervalle, qui était un intervalle disharmonieux, violent. Il le jouait de toutes sortes de façons et en fait on a commencé des conversations musicales qui était pour moi l'avancée dans des chemins que je ne soupçonnais même pas d'exister.
C'est-à-dire ?
On était dans la sensation pure. C'est-à-dire qu'il a modifié son jeu en répondant à ma propre musique.
Donc il est rentré en communication.
Il est rentré en communication de telle sorte même qu'il a fini donner des petits concerts. Et je me souviens qu'une fois, j'avais invité, je le faisais régulièrement, des musiciens, des amis et des collègues qui donnaient chaque mois un concert pour les enfants autistes du centre Adam Shelton. Et une fois qu'un pianiste était venu jouer du Chopin, et c'était un concert magnifique, David s'est levé d'un coup. Lui qui ne bougeait pas en général, s'est traîné jusqu'au pianiste, l'a attrapé comme un rien par les épaules, l'a dégagé du tabouret de piano et s'est mis à jouer ses intervalles préférés.
Thank you.
clair. C'est le concerto pour deux violons de Jean-Sébastien Bach, filmé salle Pleyel à Paris en 1958, avec l'orchestre de chambre de la RTF dirigé par Pierre Capdevielle et ses Ménouines et Ostrak que l'on entend jouer ensemble. C'est un disque que vous avez choisi, Claire Aupert.
Oui, je l'ai choisi et je trouve que c'est de toute beauté. Et ça fait écho également au poète que j'aime tant, Christian Bobin, qui parle de ces deux merveilleux violonistes comme deux anges couillus descendus sur terre pour remettre de l'ordre. Ménouine, avec son visage aristocratique, qui lève les yeux sous le poids d'une pensée, et Ostrak qui écoute son violon plus fébrilement qu'une mère qui guetterait la respiration de son nouveau-né. Bach est un enfant, effectivement, nous dit Bobin, dont l'angoisse est si grande qu'il fait venir l'Éternel à son chevet.
Vous l'avez beaucoup joué, Bach ?
Je l'ai beaucoup joué, je le joue encore chaque semaine. Et Bach est fou, disait Bobin. Et il est fou d'une folie d'angoisse. Et en même temps, sa musique se rue vers Dieu, comme un enfant en bas âge se lance d'un coup sur ses jambes novices, misant que la chute arrivera juste au creux des bras de sa mère, dans leur demi-cercle accueillant. Voilà, c'est aussi Bach, ce sont les mots de Christian Bobin. Et c'est aussi cela, Bach, c'est à la fois la plus grande éternité et en même temps le plus grand présent qui soit.
Jusqu'à 15h, pour ceux qui nous rejoignent sur France Inter, c'est la journée particulière de Claire Aupert, violoncelliste, art-thérapeute. En avril 2012, donc, vous étiez confrontée pour la première fois à l'évidence du soulagement de la douleur grâce à la musique. Au Ward-Butten, vous avez fait jurer de ne jamais rien lire sur les autistes. Vous avez travaillé 6 ans avec Howard Buten, mais pourtant en 2007, contre l'avis d'Howard, vous êtes inscrite à un diplôme universitaire d'art-thérapie. Qu'est-ce que vous avez appris, vous, Claire Aupert, à l'université ?
J'ai obtenu des outils, peut-être pour mieux mesurer ce qui me semblait évident avant de pouvoir le mesurer. En fait, c'est l'importance de pouvoir chiffrer, de pouvoir prouver, de pouvoir comprendre aussi, un tant soit peu, les mécanismes. Et surtout d'avoir la possibilité d'avoir des protocoles, d'avoir des objectifs. En fait, Howard m'avait interdit de lire, mais je lui ai demandé l'autorisation d'aller étudier et il me l'a donné en quelque sorte. Il m'a donné sa bénédiction en me faisant cette phrase qui était assez visionnaire. Il m'a dit « Tu n'apprendras rien, mais tu feras des rencontres ». Bien sûr, j'ai appris des choses. Je suis maintenant beaucoup plus capable de présenter mes recherches cliniques dans des congrès importants. Et...
où l'on vous écoute, avec votre violoncelle.
Voilà, où je joue également. Mais surtout, je pense que c'est important d'avoir une approche scientifique aussi de cette démarche. Aussi, en tout cas, d'en être capable. L'approche intuitive est fondamentale et elle reste la base de la relation. Car on ne peut pas tout quantifier sans tomber dans l'absurde. Mais la possibilité de quantifier, d'analyser ce qu'on a mesuré, à mon avis, est indispensable, au moins pour avoir crédibilité auprès des facultés de médecine. Car aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir enseigner aux médecins, aux jeunes étudiants en médecine, mais également à des médecins dans différents DU, pour apporter en fait un regard global sur le patient, qui n'est pas juste une maladie ou un chiffre d'analyse, mais en fait une personne avec toutes ses dimensions.
Quels sont les signes que l'on peut voir sur les patients, les signes qui disent l'effet de la musique ?
Alors il y a beaucoup de signes, hein. Ouais. Les anciens avaient répertorié tous les pouvoirs de la musique. Il y a le pouvoir expressif, cette capacité qu'a la musique de délivrer la parole, ou bien d'exprimer des choses que la parole ne peut pas porter. Il y a aussi le pouvoir d'entraînement, le fait que les pieds et les mains se remettent à bouger même quand la vigilance est réduite et même dans les états de coma profond. Il y a le pouvoir relationnel quand les personnes se remettent à parler parce qu'une musique a chanté. Cette capacité qu'a la musique de tisser des liens et de redonner en fait vie aux relations humaines. Et aussi le pouvoir cathartique dont Aristote a beaucoup parlé et que j'expérimente chaque semaine aussi à travers les larmes qui coulent chez la plupart des patients et qui sont la plupart du temps qualifiées de consolantes, de nettoyantes, de purifiantes. C'est ça le pouvoir cathartique, avoir l'impression qu'on a été dégagé, purifié de quelque chose qui était trop lourd et que la musique a permis d'évacuer. Et il y a aussi ce pouvoir que Platon appelait le pouvoir éducatif, qui n'est pas l'éducation musicale comme on l'entend, mais le fait que la musique vient chercher notre sensorialité avant d'aller toucher notre raison. Car on n'a pas besoin de comprendre la musique pour la sentir. Et c'est aussi un des grands pouvoirs de la musique.
Claire Repère, vous travaillez en EHPAD avec des personnes démentes et vous racontez des scènes incroyables, très étonnantes, où des gens dans leur fauteuil roulant se mettent à danser immobile, ou une femme, comme vous le disiez, tétraplégique, qui se met à battre la mesure avec son gros doigt de pied en entendant le Carmen de Bizet. C'est ça que vous suscitez aussi?
Oui, alors c'est à travers moi, je ne sais pas si c'est moi qui le suscite, mais c'est cette force lumineuse que la musique rejoint en chacun. Car la musique, quand elle résonne pour les patients atteint de la maladie d'Alzheimer ou autre démence, en fait, vient toucher la partie saine, la partie vivante. La musique travaille hors pathologie, elle s'adresse au noyau qui n'est pas altéré en chacun. Et nos spectacles publics, nous en avons réalisé 10.
Dans les EHPAD.
Dans l'EHPAD Corian Jardin d'Alésia, où j'ai travaillé pendant 5 ans. J'ai rassemblé des patients dits déments, qui étaient dans cet espace que j'ai décrit au début, où j'avais rencontré cette magnifique Madame Kessler, qui faisait d'ailleurs partie de notre troupe artistique. C'était des spectacles publics d'art total, des grands moments artistiques. En fait, les patients, les résidents, ont travaillé environ 14 à 15 séances avant de présenter les spectacles que nous avons faits au nombre de 10. Le premier de nos spectacles s'appelait « De l'amour du ciel à la terre ». Et nous avons traversé le répertoire amoureux, musical, en partant de l'Ave Maria de Gounod dans le ciel, jusqu'au rouge passionné de Carmen de Bizet. Et nous avons dansé, dansé vraiment. Les patients pourtant étaient grabataires, ne bougeaient pas, ils étaient en demi-cercle, ils avaient des foulards. C'était les plus belles chorégraphies que jamais ils m'étaient donné de voir. Ils ont chanté, ils ont joué des cloches, ils ont récité des poèmes. En fait, la musique faisait appel aux mots, et les mots faisaient appel au mouvement et à la danse. C'était vraiment des spectacles d'art total. Et l'expérience du morcellement de la mémoire, finalement, a été retissée par la musique qui faisait lien.
Vous travaillez donc en EHPAD, Claire Repère, vous travaillez aussi en soins palliatifs à l'hôpital Sainte-Périne. Et là, vous faites tous les jours des rencontres, tous les jours, quand vous ouvrez les portes des chambres, il va se passer quelque chose. Vous ne savez pas ce qui va se passer et vous êtes toutes disponibles à cette rencontre. Moi, il y a une rencontre dont je me souviens, dont vous parlez magnifiquement, c'est celle avec Monsieur Kumba. Et Monsieur Kumba, il vous demande à chaque fois cette musique-là.
Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non.
Claire Repère, qu'est-ce qu'il se passe avec Monsieur Kumba quand il écoute, quand il vous écoute jouer au violoncelle? Non, je ne regrette rien.
Monsieur Kumba était un monsieur extraordinaire, c'est un ancien boxeur de grand niveau qui avait connu Marcel Cerdan, et il me demandait toujours du Piaf, car, disait-il, il se reliait ainsi à son passé, dans un présent qu'il jugeait très goûteux. En fait, quand je jouais du Piaf, il me regardait, il balançait la tête, il voulait enlever son masque à oxygène à ce moment-là, il était atteint d'une maladie neurodégénérative, SLA, qui le paralysait en commençant par les jambes et qui remontait. Et en fait, il me disait toujours, après Piaf, je me suis soulevé au-dessus de ma maladie. Et en fait, il disait, quand vous jouez du violoncelle, je ne me sens plus malade. Il réfléchissait un peu et il disait, non, en fait, c'est pas ça. Quand vous jouez du violoncelle, je ne suis plus malade. Je sens en moi la joie et la vie. Et ce que la musique appelait en lui, allait chercher, c'est quelque chose qui était en lui. La musique n'invente rien, n'apporte rien qui ne soit déjà là. Elle va récupérer ce qui est encore présent. Elle ne s'adresse pas à ce qui manque, mais elle s'adresse à ce qui reste et elle l'épanouit.
Et Monsieur Kumba disait, je sens la vie jusqu'au bout, j'ai la force de continuer à me battre, je suis sur le ring, ne pas lâcher.
Ça lui donnait la force de vie, ça lui donnait aussi la possibilité d'éprouver la vie qui était en lui. Et ça, c'est une des choses les plus importantes dans ce travail merveilleux qui est le mien, de jouer du violoncelle pour les patients en fin de vie. C'est de voir que la fin de vie, c'est encore la vie, et que cette vie qui est éprouvée et mise en mots, je ne savais pas que c'était si vivant là, disent les patients en touchant leur cœur du plat de la main. Donc rééprouver la vie et transformer pour un temps le corps de maladie, de souffrance, le corps morcelé par la maladie, en un corps de vie, en un corps de sensations et d'émotions.
Alors là, je pense évidemment à un homme assez jeune, en soins palliatifs, séropositif, à qui vous jouez après un rêve de forêt et qui vous écoute. Qu'est-il passé avec ce jeune patient séropositif ?
Il m'a accueilli tout de suite avec beaucoup d'ouverture et m'a dit « Assieds-toi et joue-moi quelque chose d'apaisant car la nuit était terrible ». En fait, il avait des immenses peurs et ce matin-là, je lui ai joué « Après un rêve » de Gabriel Fauré et il a mis en mots ce qu'il ressentait. Il m'a dit « Regarde, je suis couvert de chair de poule ». En fait, la musique et les vibrations du violoncelle traversent le corps malade, en fait. Elle le fait vibrer, elle le fait résonner. Et il l'a poursuivi en me disant, c'est comme si ta musique me donnait les moyens de faire en sorte que quelque chose jaillisse. Il avait l'impression d'une force en lui qui allait pouvoir trouver un chemin pour se dire. Il a dit, c'est dingue ça, on dirait un partage possible. Son visage était complètement ravagé. Et il me disait, tu vois, j'ai l'impression que ma souffrance veut jaillir et tu m'offres un chemin pour sortir du sentiment d'être ligoté.
Et alors qu'il allait mourir, qu'il était dans le coma, vous êtes venu quand même dans sa chambre pour lui jouer, encore une fois, après un rêve de Gabriel Fauré, Claire Aupert. Et là, alors qu'il était dans le coma, il a eu la chair de poule.
Mais c'est tout à fait étonnant, en fait, en soins palliatifs. Je retrouve les patients chaque semaine et souvent, malheureusement, leur état s'altère. Mais je continue à jouer pour eux aussi les choses qu'ils ont aimées, qu'ils m'ont demandé au moment où ils pouvaient les formuler. Et quand j'ai joué après un rêve, donc pour ce monsieur qui avait tant aimé cette musique, eh bien, il a eu les mêmes manifestations qu'il avait quand il était conscient. Il s'est couvert tout à fait de chair de poule. Je suis en fait entrée dans le rythme de sa respiration. Et c'est tout à fait étonnant comme les vibrations musicales vivantes de mon instrument continuent d'atteindre au plus profond même les personnes qui sont dans des états de coma, qui apparemment ne sont plus présents, qui ne répondent plus quand on leur parle ou quand leurs proches essaient de leur parler, et qui pourtant, dès que le violoncelle résonne, commencent à modifier leur respiration.
Les cages thoraciques s'ouvrent.
Voilà, la respiration thoracique devient très ample. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe dans la majorité des cas, même dans des états de coma profond. C'est comme si, dans la chambre, il n'y avait plus que nos deux respirations. Et la musique rentre dans le rythme de sa respiration et s'adapte et se modifie aussi. Mon tempo change au rythme, finalement, de l'accueil de cette grande respiration qui est la sienne. C'est la seule façon qui lui reste de dire qu'il entend.
Et je voudrais parler de Madame Bloch, magnifique personnage.
Madame Bloch a refusé d'emblée quand je lui ai proposé de jouer pour elle. Elle m'a dit « ça va remonter, le passé va remonter ». Elle était une ancienne rescapée des camps de la mort. Et elle avait cette intuition juste que la musique est danger et que les peurs noires, en fait, peuvent ressurgir. Et qu'il y a des peurs qui sont tellement abominables, des peurs très anciennes qui immobilisent. Et elle ne voulait pas que la musique s'adresse à elle directement. Par contre, elle me suivait partout. Et je ne l'avais pas remarqué, ce sont les infirmières qui me l'ont dit à chaque porte que j'ai poussée. En fait, elle me suivait, elle écoutait à travers la porte, comme si l'émotion trop intense, elle voulait l'éviter, mais elle ne pouvait pas réprimer cet élan vital. Et elle le dosait génialement à sa mesure, en écoutant à travers l'écran de la porte.
1, 2, 3, 4. Vejo passar pela janela as estações de trem. Passo o inverno, passo o verão. Quando você vem, vejo a lua e as estrelas, e vejo o sol também. Por mim passam tantas pessoas, sem você não sou ninguém. Preciso de você pra respirar. Preciso de você pra mergulhar. No fundo de você há de haver um lugar para mim, um lugar para nós dois. Meu amor não tem perfume, meu amor não tem razão, meu amor sem artifício. Preciso de você pra respirar. Preciso de você pra mergulhar. No fundo de você há de haver um lugar para mim, um lugar para nós dois. Vejo passar pela janela as estações de trem. Passo o inverno, passo o verão, mas você não vê.
Une journée particulière, Zoé Varier sur France Inter.
Claire Oppert, vous riez. 2012, c'est donc l'année de votre journée particulière. Et 2012, c'est l'année du jubilé de Diamant d'Elisabeth II. C'est l'année où Gangnam Style de Psy atteint le milliard de vues sur YouTube. Vous me suivez, Claire?
Oui.
Vous me suivez. Et c'est l'année où Rihanna chante Diamonds.
Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright.
Claire Oppert, est-ce qu'on vous a déjà demandé de jouer du Rihanna? Est-ce que ça vous est arrivé?
Ça m'est arrivé de jouer énormément de choses. Je peux même plus me souvenir de tout ce que j'ai eu l'honneur, en fait, d'interpréter, dont j'ignorais même l'existence parfois.
Mais Rihanna, non.
Rihanna, non.
Pas encore.
Pas encore, mais tout est devant.
Tout est devant et ça viendra, j'en suis sûre. En 2012, Claire Oppert, des centaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues pour protester contre l'élection de Vladimir Poutine. Et je trouvais que ça résonnait avec ce qui était en train de se passer aujourd'hui même en Russie, avec ces dizaines de milliers de personnes dans les rues qui manifestent pour protester contre l'arrestation de Navalny. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes attentive à ça? Vous avez vécu en Russie longtemps?
Alors, j'ai vécu la chute du mur du côté soviétique, puisque c'était mes années moscovites au conservatoire Tchaïkovski de Moscou. Oui, la situation est terrible et j'ai l'espoir que dans quelques temps, en tout cas, d'après ce qu'on peut lire et d'après ce que j'ai compris, petit à petit, une autre Russie va faire jour.
En 2012, le poète et écrivain Christian Bobin, que vous avez cité tout à l'heure avec vos anges couillus, publiait L'Homme Joie. D'ailleurs, les anges couillus font partie, c'est un texte qui fait partie de L'Homme Joie. Je sais, Claire Aupert, que vous appréciez beaucoup Christian Bobin. On l'écoute.
Il n'y a qu'un seul art, à mon gré, c'est l'art de vivre. C'est le seul. L'art d'écrire est une des branches de cet art-là. De même que, si vous voulez, il y a la musique. Et puis dans la musique, il y a différents types d'instruments. L'art d'écrire, c'est une variation instrumentale de l'art de vivre. Mais c'est celui-là qui est le premier. Et l'art de vivre, pour moi, c'est l'art de porter et de prêter et de donner attention. C'est ça, de donner attention. Chaque mot compte ici. L'art de vivre est pour moi l'art de donner attention. Attention à quoi? Eh bien, à tout sauf soi, à tout ce qui n'est pas soi, tout ce qui n'est pas vous.
Alors, Claire Aupert, on pourrait dire que vous avez un grand art de vivre.
J'aime infiniment Christian Bobin et ses mots et ses résonnent en moi depuis fort longtemps. En fait, cette attention au fragile, qui n'a rien de mièvre et rien de déplacé, c'est une attention à l'essentiel et je pense que dans mon travail, quand je joue pour des patients en fin de vie, je me rapproche en tout cas de ce qu'il décrit, car quand on est sur son lit de mort, ce qui reste, c'est ce que nous avons aimé et ce dont nous nous sommes émerveillés. Car les personnes arrivées au bout de leur parcours de vie ont encore la capacité de s'émerveiller. Et c'est ça mon expérience, et c'est ça la richesse de mon travail. Et bien après l'émerveillement vient la joie.
Oui, la joie, c'est le mot qui revient dans cette étude sur le pansement Schubert. La joie, la vibration, la vie, ce sont les mots qui reviennent.
Oui, j'ai mené une étude, alors qui n'est pas directement sur le pansement Schubert, mais qui était une étude sur les paroles qu'ont prononcées les patients à l'écoute de la musique que j'ai jouée pour eux en soins palliatifs. Cette étude a analysé 450 paroles qu'ont prononcées les patients pour essayer d'en sortir les grandes thématiques et aussi d'essayer d'appréhender, de mieux comprendre ce qui se joue pendant ces moments de musique partagée. Et les mots phares, les mots qui reviennent le plus souvent dans la bouche des patients, ils sont au nombre de 4. C'est d'abord le mot vibration, c'est le mot cœur, c'est le mot joie et c'est le mot vie.
Merci Claire Aupert d'avoir passé cette heure avec nous. Votre livre Le Pansement Schubert est publié aux éditions de Noël. C'était une journée particulière. Une émission préparée par Hugo Combes, à la programmation musicale Djoubaka, à la réalisation Flora Bernard, à la technique Stéphane Touvenin. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup Claire Aupert.
Merci à vous vraiment.